Chapitre 8. Quand les 5 000 ont été nourris, comme cela nous est rapporté dans le chapitre 6, les disciples ont pris l'initiative en attirant l'attention de leur maître sur les besoins des foules. En cette deuxième occasion, c'est le Seigneur qui prend l'initiative et qui attire l'attention des disciples sur le dénuement des foules, exprimant sa compassion et son souci à leur égard. De nouveau, comme la première fois, les disciples ont simplement l'homme devant eux et ne pensent qu'à ce qu'il peut faire, ce qui ne répond absolument pas à la situation. Ils n'avaient pas encore appris à mesurer la difficulté en la rapportant à la puissance de leur Seigneur. C'est pourquoi l'enseignement que Jésus avait donné, en nourrissant une grande foule avec des ressources matérielles vraiment infimes, est répété. Il y a de légères différences, aussi bien dans le nombre de personnes que dans le nombre de pains et de poissons utilisés, mais pour l'essentiel, ce miracle est une répétition de l'autre, et une fois encore, le verset 15 du psaume 132 est accompli, tandis que la puissance de Dieu se trouve manifestée devant leurs yeux. Ayant nourri la multitude, Jésus la renvoie lui-même et immédiatement après part avec ses disciples pour gagner l'autre côté de la mer, comme la fois précédente. À son arrivée, viennent certains pharisiens avec des intentions hostiles, demandant un signe du ciel. En fait, Jésus vient de donner des signes du ciel impressionnants, en la présence de milliers de témoins. Les pharisiens n'avaient aucune intention de le suivre, et donc n'avaient pas été là pour voir le signe pour eux-mêmes. Cependant, il y avait un témoignage suffisant s'ils voulaient l'écouter. Bien sûr, le fait est que, d'une part, ils n'avaient aucun désir d'être témoins d'un signe qui authentifiait Jésus et sa mission, et, d'autre part, ils étaient incapables de voir et de reconnaître le signe même quand il était manifesté devant leurs yeux. Leur complète incrédulité remplit le cœur du Seigneur de chagrin. Au verset 34 du chapitre précédent, lorsqu'il était confronté à la faiblesse humaine et à l'infirmité corporelle, Jésus a soupiré. Ici, placé devant l'aveuglement spirituel, il soupire profondément en son esprit. L'infirmité spirituelle est une chose beaucoup plus grave que l'infirmité corporelle. Ils étaient les conducteurs aveugles d'une génération aveugle et qui à tâtons cherchaient un signe. Aucun signe ne leur serait donné, car pour des aveugles, des signes sont inutiles. C'est l'occasion où, comme cela nous est rapporté au commencement de Matthieu 16, le Seigneur leur dit qu'ils savaient discerner l'apparence du ciel, mais pas les signes des temps. Ne laissons pas là ce sujet comme si c'était quelque chose qui ne concernait que les pharisiens. Dans son principe, il nous concerne nous aussi. Combien de fois le vrai croyant a été troublé et découragé, pensant que Dieu n'a pas parlé, n'a pas agi, n'a pas répondu, alors qu'en réalité il l'a fait. Seulement, nous n'avons pas eu des yeux pour voir. Peut-être avons-nous continué à le supplier pour qu'il donne plus de lumière, alors que pendant tout ce temps-là, tout ce qu'il fallait, c'était quelques fenêtres dans notre maison. Le mobile qui faisait agir ces pharisiens était entièrement mauvais, puisque leur but était de le tenter. Aussi le Seigneur les laisse brusquement et gagne de nouveau l'autre rive qu'ils venaient de quitter peu de temps auparavant, et les disciples n'ont pas de pain. Ainsi, pour la troisième fois, ils sont en présence du problème soulevé par les 5 000 et les 4 000 qu'il fallait nourrir, mais à une toute petite échelle. Hélas, les disciples n'affrontent pas dans la force de la foi un problème relativement petit, pas plus qu'ils ne l'ont fait quand il s'est posé dans des proportions plus grandes. Eux également n'avaient pas eu jusqu'ici des yeux pour voir la puissance et la gloire de leur maître, comme elles avaient été manifestées par deux fois dans la multiplication des pains et des poissons. La foi véritable a une vision pénétrante. Ils auraient dû discerner qui il était, et alors ils auraient regardé non pas à leur pauvre pain et à leur pauvre poisson, mais à lui, et toute difficulté se serait évanouie. Dans les petites crises qui marquent notre propre vie, valons-nous mieux qu'eux ? L'accusation du Seigneur concernant le levain des pharisiens et le levain d'Hérode ne nous est pas expliquée ici, comme dans Matthieu, mais il nous faut noter ce qu'elle signifie. Jésus fait allusion à la doctrine de ces deux factions qui travaillait comme du levain dans ceux qui venaient d'être placés sous l'influence de l'une ou de l'autre. Le levain des pharisiens était l'hypocrisie. Celui des hérodiens était une extrême mondanité. En Matthieu, nous lisons ce qui concerne le levain des sadducéens, et il s'agissait de l'orgueil intellectuel qui les amenait à l'incrédulité rationaliste. Rien n'aveugle davantage l'esprit et l'intelligence que ces trois sortes de levain. L'aveugle de Bethsaïda, dont il nous est parlé dans les versets 22 à 26, illustre exactement l'état des disciples à ce moment-là. Quand on amène l'aveugle au Seigneur, celui-ci le prend par la main et le mène hors de la bourgade, le séparant des lieux fréquentés par les hommes, tout comme auparavant il a tourné le dos aux pharisiens et à ceux qui étaient avec eux. En dehors de la ville, le Seigneur s'occupe de lui, accomplissant son œuvre en deux temps. C'est la seule fois, autant que nous nous en souvenions, qu'il a agi ainsi. Après avoir été touché une première fois, l'aveugle voit des hommes comme des arbres qui marchent. Il voit, mais les choses sont terriblement brouillées. Il sait que les objets qu'il voit sont des hommes, mais ils ont l'air beaucoup plus grands qu'ils ne sont en réalité. Il en était ainsi des disciples. L'homme avait trop d'importance à leurs yeux. Même quand ils regardaient le Seigneur lui-même, il semblait que, à leurs yeux, son humanité éclipsait sa déité. Ils avaient besoin, comme l'aveugle, d'être touchés une seconde fois avant de voir toute chose clairement. La présence du Fils de Dieu parmi eux, dans le sang et dans la chair, a été cette première fois où ils ont été touchés et où, en conséquence, ils ont commencé à voir. Après sa mort, sa résurrection et son ascension dans la gloire, le Seigneur les a touchés une seconde fois en répandant son esprit, comme cela nous est rapporté en Acte 2. Alors, ils ont vu toutes choses clairement. Nous pouvons bien prier avec ferveur que notre vision spirituelle ne soit pas celle d'une vue basse et brouillée, de peur que les grands arbres que nous croyons voir ne se révèlent être seulement de faibles petits hommes qui se pavanent. Nous pouvons connaître un tel état, comme la seconde épître de Pierre le montre, au chapitre 1, verset 9. Et nous sommes inexcusables, puisque le Saint-Esprit nous a été donné. L'aveugle, une fois guéri, ne devait pas entrer dans la bourgade, ni le dire à personne dans la bourgade. De plus, le Seigneur lui-même se retire maintenant avec ses disciples à Césarée de Philippe, la bourgade la plus septentrionale dans les confins du pays et très proche de la frontière des nations. Il est évident qu'il commence à se retirer et à retirer le témoignage rendu à sa messianité de devant ses aveugles et leur chef encore plus aveuglé. Ici, il soulève auprès de ses disciples cette question de savoir qui il était. Les hommes avaient avancé différentes suppositions, mais tous imaginaient qu'il était quelque prophète d'autrefois, revenu à la vie, tout simplement un homme, et personne ne s'intéressait assez à cette question pour trouver vraiment la réponse. Alors Jésus interpelle ses disciples. Pierre devient leur porte-parole et répond en confessant qu'il est le Messie. Mais ceci provoque seulement une réponse qui probablement les a grandement étonnés et qui peut nous étonner aussi lorsque nous la lisons aujourd'hui. Il leur enjoint de ne dire à personne qu'il est le Messie et il commence à les instruire de son rejet, de sa mort et de sa résurrection qui doivent arriver bientôt. Tout témoignage qui lui a été rendu comme Messie sur la terre est maintenant officiellement retiré. Dorénavant, il accepte sa mort comme inévitable et il commence à diriger les pensées de ses disciples vers ce qui, en conséquence, va arriver. Tel est le déroulement régulier des choses sur le plan humain, et cela ne contredit ni ne heurte le côté divin. Il sait dès le départ ce qui est devant lui. De plus, les disciples ne sont encore guère qualifiés pour rendre plus ample témoignage si cela avait été nécessaire. Pierre, en vérité, a une certaine mesure de discernement spirituel, car il vient de confesser Jésus comme étant le Christ. Cependant, l'affirmation que son rejet et sa mort approchent soulève dans cet homme même une véhémente protestation. Pour cela, l'esprit de Pierre était gouverné par Satan, et le Seigneur reprend cet esprit de mal qui était derrière les paroles de Pierre. Les pensées de Pierre étaient aux choses des hommes, et ainsi il est tout à fait comme cet homme dont il nous a été parlé, qui voyait les hommes comme des arbres qui marchaient. Bien qu'en Jésus il reconnût le Christ, il avait encore des hommes devant lui, et en cela les autres disciples ne valaient pas mieux que lui. Aussi, comment pouvait-il aller comme témoin efficace du Christ qu'il reconnaissait? Rien d'étonnant, après tout, qu'à ce moment Jésus ait enjoint à ses disciples de ne parler de lui à personne. Nous pouvons nous arrêter ici, chacun de nous, pour bien nous rendre compte que nous ne pouvons pas aller témoigner efficacement si nous ne connaissons pas vraiment celui à qui nous rendons témoignage, et si nous ne connaissons pas et ne comprenons pas ce que sont les circonstances dans lesquelles nous sommes appelés à témoigner. Dans les derniers versets de notre chapitre, en présence de la foule, le Seigneur commence à instruire ses disciples des conséquences qui suivraient son rejet et sa mort. Les disciples se voyaient suivre un Messie destiné à être reçu et glorifié sur la terre, mais la réalité était qu'il allait mourir et ressusciter pour être alors glorifié dans le ciel. Cela entraînait un immense changement dans leur perspective d'avenir immédiat. Cela signifiait renoncer à soi-même, prendre sa croix, perdre sa vie dans ce monde, porter l'opprobre en étant identifié avec Christ et ses paroles au milieu d'une génération perverse. La force de l'expression « se renoncer soi-même » va plus loin que « se sacrifier » qui exprime l'idée de se refuser quelque chose. Le Seigneur ne parle pas simplement de renoncer à quelque chose, mais de dire non à soi-même. Également, prendre sa croix ne signifie pas seulement supporter les épreuves et les difficultés. L'homme qui, en ce temps-là, prenait sa croix était mené à l'exécution capitale. C'était un homme qui devait accepter la mort des mains du monde. Dire non à soi-même, c'est accepter la mort intérieurement pour son propre esprit. Prendre sa croix, c'est accepter la mort extérieurement des mains du monde. Voilà ce que doit nécessairement signifier être disciple, puisque nous suivons le Christ qui est mort, rejeté de ce monde. Cette pensée est développée au verset 35 à 37. Le vrai disciple de Christ n'aspire pas à gagner le monde entier. Au contraire, il est prêt à faire la perte de ce monde, et dans ce monde, à faire la perte de sa propre vie, pour l'amour du Seigneur et de son évangile. Le parfait serviteur que dépeint Marc a donné sa vie pour qu'il y ait un évangile à prêcher. Ceux qui le suivent, et sont ses serviteurs, doivent être prêts à donner leur vie en prêchant cet évangile. S'ils avaient honte de Jésus maintenant, ils auraient honte d'eux dans le jour de sa gloire.